Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous poursuivons aujourd'hui notre série d'émissions basée sur le livre biblique nommé Ruth. Jean-Marc est de retour parmi nous pour nous accompagner dans nos discussions. Il se trouve à présent à la retraite, mais il fut anciennement professeur en théologie.
Nous arrivons aujourd'hui à la fin de notre étude sur la vie de Ruth. Jean-Marc nous a aidés à mieux comprendre les vérités bibliques que cette très belle histoire nous enseigne.
Il est vrai, Yann, que cette histoire vécue est très belle. Elle nous réchauffe le cœur et nous permet de saisir combien le Seigneur est profondément attentif à ce que tous nous pouvons vivre. La vie de cette femme païenne, Ruth, au premier abord sans intérêt, nous révèle en fait que Dieu s'implique personnellement dans nos vies car il nous a à cœur. Et cette histoire nous permet aussi de découvrir la beauté de la rédemption.
À travers ces émissions, nous avons appris à connaître Boaz, qui est tombé amoureux de Ruth. À présent, nous arrivons au dernier chapitre du livre de Ruth. Nous nous trouvons à Bethléem et nous allons découvrir la suite des événements.
Au début du chapitre 4, nous lisons que Boaz monte jusqu'à la porte de la ville.
Pour quelle raison monte-t-il à la porte de la ville, Jean-Marc?
Vous vous rappelez sans doute que Boaz avait pour devoir d'assumer ses responsabilités en tant que parent rédempteur, c'est-à-dire qu'il devait prendre en mariage Ruth afin de donner une descendance à son défunt mari. Néanmoins, nous avons aussi découvert que, bien qu'étant un proche parent de Noémie et de Ruth, Boaz n'était pas leur plus proche parent. Il n'était pas celui à qui cette responsabilité revenait de droit. Il lui fallait donc s'entretenir avec l'homme qui était le plus proche parent de Noémie et de Ruth. Or, Boaz savait que cette personne aurait tôt ou tard à franchir la porte de la ville pour y entrer ou en sortir. À l'époque, dans les cités orientales, c'était à la porte de la ville que toutes les affaires juridiques étaient traitées et conclues. C'était donc le lieu, par excellence, où les deux hommes pourraient se rencontrer, discuter et traiter leurs affaires devant les nombreux témoins. Et voilà, comme prévu, que cet homme arrive. « Viens ici, mon ami, et assieds-toi, lui dit Boaz. » Boaz invite ensuite 10 anciens de la ville à se joindre à eux. Tout est organisé sans problème et l'affaire est prête à être traitée. Boaz présente les faits. « Tu connais Noémie, qui est revenue du pays de Moab, lui demande Boaz. « Eh bien, il se passe que j'ai appris qu'elle vendait le morceau de terrain qui appartenait à Élimélec. Je me suis dit que je devais t'en parler au cas où tu désirerais l'acheter. C'est toi, en effet, qui détiens le droit de rachat avant moi. »
Si j'ai bien compris, l'homme auquel s'adresse Boaz peut légitimement accepter d'exercer son droit de rachat. Mais va-t-il le faire?
Eh bien, à vrai dire, s'il n'accepte pas de remplir son devoir, cela serait très mal vu par ses concitoyens. Car le droit de rachat est plus qu'un droit, il est avant tout un devoir. Mais dans ce contexte présent, nous pouvons néanmoins supposer que Boaz espère secrètement que ce parent proche va décliner son droit. Or, voilà la réponse qui nous est donnée. « Je vais le racheter, dit cet homme, au verset 4. » Que pensez-vous que Boaz ait pu ressentir en entendant ces paroles?
J'imagine facilement que son cœur a dû cesser de battre.
Et pourtant, rien n'est encore perdu. La question de Ruth n'a pas encore été abordée, ce qui lui donne l'occasion d'ajouter « Ah, j'ai oublié de te dire, quand tu achèteras le morceau de terrain de Noémie, Ruth, la veuve moabite du fils d'Élimélec, fera partir du lot. »
Et comment son interlocuteur a-t-il réagi alors à cette information?
Sans aucun doute, cet homme a dû être reconnaissant à Boaz de lui avoir fait remarquer cela. Le rachat du terrain signifiait aussi qu'il y aurait un mariage, et de surcroît un mariage avec une femme de Moab.
Oh, celui qui rachèterait le terrain devait aussi racheter Ruth.
Oui, c'est cela. Mais cet homme n'éprouve aucun amour envers Ruth et il semblerait même qu'il était plutôt calculateur. Il sous-pèse le pour et le contre, l'avantage de devenir propriétaire du terrain de Noémie et le risque de prendre en mariage une femme de Moab. Après un rapide calcul de la situation, la conclusion est claire. Il a tout à coup perdu tout intérêt à la chose. « Tu le rachèteras toi-même, dit-il à Boaz, je ne peux pas le faire. »
Par ces mots, il met donc fin au suspense.
Oui, et pour conclure l'affaire, selon la tradition de l'époque, il enlève une de ses sandales et la donne à Boaz. La sandale était le symbole du droit de poser les pieds sur une propriété. En donnant sa sandale, cela signifiait que cet homme passait son droit à Boaz.
On peut donc dire que cet homme avait droit de rachat, mais il n'avait pas envie d'exercer ce droit et voulait la propriété, mais sans Ruth.
Par crainte de détruire mon héritage, dit-il au verset 6. Il devait effectivement ne pas vouloir d'étrangers dans sa descendance.
Je comprends cela, Jean-Marc, mais alors pourquoi Boaz ne craint-il pas, dans ce cas, de mettre en danger sa propre descendance? Si je comprends bien, dans la loi de Moïse, il nous y est dit que les Moabites n'avaient pas le droit d'entrer dans l'assemblée du Seigneur, ceci même jusqu'à la 10e génération. Nous trouvons cette loi dans le chapitre 23 du Deutéronome, verset 3. Boaz n'est-il pas confronté à un problème ici?
Oui, il y en aurait eu un, effectivement, si le mot « grâce » n'intervenait pas une fois de plus. Et c'est cette grâce souveraine de Dieu qui va l'emporter dans la vie de Ruth, une vie de foi et de rédemption. Boaz honore sa promesse devant les anciens et tout le peuple. À partir du verset 9, nous le voyons déclarer devant tous qu'il a racheté le terrain de Noémie et que Ruth va devenir sa femme. Elle, qui peu de temps avant était encore une étrangère, écartée de tous les privilèges que Dieu réserve à son peuple. Mais grâce à Boaz, qui veut bien payer le prix de son rachat, elle est maintenant intégrée à la nation juive. Elle est maintenant devenue membre de la maison de Boaz et elle est même devenue précieuse à ses yeux et dans son cœur.
Et qu'apprend-on sur eux une fois mariés?
Eh bien, le Seigneur les bénit en leur donnant un fils, c'est le verset 13, qu'ils appellent Obed. Il est le petit-fils tant attendu par Noémie. Personne ne pouvait évidemment imaginer quel serait l'avenir de cet enfant, mais les prières des femmes de Bethléem pour lui étaient qu'il devienne célèbre dans tout Israël. C'est le verset 14. Or, voici que leurs prières furent exaucées. et d'une façon tout à fait remarquable. En effet, Obed devint le père d'Isaïe, qui, à son tour, devint le père de David. Plus important encore, comme nous pouvons le lire au début de l'évangile de Matthieu, cette lignée familiale est celle de notre parent rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le Seigneur est celui qui a payé le prix le plus élevé qui soit pour nous préparer une place dans le ciel.
Jean-Marc, maintenant que nous arrivons à la fin de notre série sur le livre de Ruth, en quelques mots, pouvez-vous nous dire quelles en sont les plus importantes leçons?
Ce livre établit un lien vital entre les événements bibliques de la Genèse et ceux de l'étable de Bethléem et de la croix. Ce n'est qu'un petit livre, mais il contient un message formidable pour nous. C'est le message de la rédemption. Nous la voyons manifestée dans la vie de Ruth, qui est une femme étrangère issue d'une nation païenne, mais qui arrive à la connaissance du Dieu vivant. Ayant trouvé Dieu, la vie de Ruth illustre le psaume 91 qui annonce « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Un peu plus loin, dans ce même psaume, nous lisons « Sous ses ailes, nous trouvons un refuge. » À travers le livre de Ruth, nous découvrons un aperçu de la souveraineté de Dieu. Nous sommes les témoins de la manière dont il utilise la désobéissance d'Élimélec, de la manière dont il a choisi de rétablir Noémie dans un lieu de bénédiction. Ensuite, nous voyons sa souveraineté à l'œuvre quand il unit Ruth et Boaz, les choisissant ainsi pour faire partie de la lignée familiale du roi des rois, notre Seigneur Jésus. Toutes ces choses dans le livre de Ruth sont, je le pense, des leçons importantes pour nous. Elles se résument en ces mots. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Notre série sur le livre biblique de Ruth se termine aujourd'hui. Et nous voulons remercier Jean-Marc pour sa participation enrichissante lors de ces émissions.
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.